Bonsoir, cher public. J'aimerais entamer cette soirée avec une question architecturale. Connaissez-vous le point commun entre le mur de Berlin, la Grande Muraille de Chine et le mur d'Adrien? La réponse est que de nos jours, tous sont devenus des attractions touristiques. Mais alors, me direz-vous, quel est le point commun entre cela et la citation de Benjamin Franklin, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux? Eh bien, voyez-vous, la frontière est l'illustration parfaite de cette citation. Voyez-vous, quand un peuple désire se protéger de son voisin en bâtissant des frontières, il enferme son propre peuple dans sa frontière et donc restreint sa liberté. Pour au final devenir de plus en plus étranger à son voisin et donc de plus en plus hostile. Et du coup, votre voisin devient un ennemi et au final un danger à votre sécurité. Cela semble certes simpliste et tiré par les cheveux, mais pourtant l'histoire est pleine d'exemples qui illustrent cette citation avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Car pour moi, même s'il faut un minimum de sécurité, imaginez s'il n'y avait pas d'autoroute. Imaginez s'il n'y avait pas de code de la route. Toutes les voitures se rentreraient dedans et plus personne ne voudrait prendre le volant de peur de mourir. Par contre, trop de sécurité est une menace à notre liberté. Car à force de se protéger des autres, on en fait nos ennemis. Aussi, à force de se faire protéger par les autres, on en devient dépendant. De plus, le contre-exemple de cette citation fonctionne. Un peuple prêt à se débarrasser de son oppresseur et sacrifier sa sécurité pour retrouver sa liberté finit par gagner sa sécurité et sa liberté. Pour appuyer les propos de Benjamin Franklin, nous allons procéder de façon chronologique, en s'appuyant sur des exemples antérieurs à sa vie, postérieurs à sa vie et actuels. Pour commencer, plongeons-nous dans le cœur des États-Unis au Massachusetts à la fin du XVIIe siècle. À cette époque, l'État était presque totalement contrôlé par le clergé, et le peuple, très ignorant, s'était soumis aux lois divines dans la peur du mal. L'Église, pour accentuer son influence, augmentait toujours l'idée de l'hérétisme jusqu'à ce qu'un jour, dans le village de Salem, on pense voir des alliés de Satan. C'est là qu'un climat de méfiance s'installe. On pense de plus en plus que son voisin est un allié du diable, et ce voisin, nous pouvons l'envoyer au tribunal sous prétexte qu'on pense qu'il commet des actions contraires aux lois divines, et nous pouvons peut-être l'envoyer au tribunal même par intérêt personnel. Ce fut la chasse aux sorcières, toute cette démarche, cette soumission aux lois divines, pour au final tomber dans un climat de méfiance où le danger s'incarne dans nos voisins et nos maîtres. Dans cet exemple, Benjamin Franklin montre que se plier aux lois des autres, c'est leur vendre sa liberté et sa sécurité. Le deuxième exemple que j'aborderai est celui du McCarthyisme. Comme vous le savez peut-être, dans les années 50, les États-Unis se sont plongés dans la peur rouge, la peur d'une révolution communiste, tout à fait compréhensible vu les dégâts de la dictature stalinienne. Et pour éviter une envie de révolution d'une partie du peuple, le peuple a alors accepté de se censurer, de détruire sa liberté d'expression. Dès lors, des tas d'acteurs, journalistes, politiciens, militaires se sont vus arrêter, et l'État a fini par ressembler à ces dictatures qu'il voulait tellement éviter, où on n'est pas à l'abri de se faire censurer, et on n'est non plus à l'abri d'une arrestation arbitraire. Le McCarthyisme est la réincarnation moderne de la chasse aux sorcières, sauf que cette fois, on est censuré de notre liberté artistique et politique, et ce n'est pas une soumission à des lois divines. Le dernier exemple que j'aborderai est celui des lois sécuritaires actuelles, comme les états d'urgence ou les lois à l'encontre du droit à la manifestation. Cela sert à protéger les Belges et les Français, mais cela marche-t-il vraiment? Pourquoi y a-t-il un contrôle aléatoire? Pourquoi y a-t-il des détecteurs de métaux dans les gares? Cela sert certes à ne pas nous faire attaquer dans le train, mais cela ne nous empêche pas de nous faire attaquer dans le bus ou dans le métro. Et aussi, pourquoi essaye-t-on d'empêcher les mécontents de manifester? La vérité est que tout cela est une sécurité purement symbolique. Regardez, le jour où les extrêmes monteront au pouvoir, empêcher les gens de manifester deviendra un danger pour nous. Une sécurité pas totale n'est pas une sécurité efficace non plus. Et de plus, les états d'urgence, en plus d'être accentués par les médias, sont en vérité là pour donner les pleins pouvoirs à l'État et le permettre d'appliquer des lois bien plus rudimentaires comme des absences de mandat ou de procès. Et ces lois et cet état d'urgence, même temporaire, a un impact ultérieur sur le droit commun avec des nouvelles lois sécuritaires. Et le peuple, toujours prêt à sacrifier sa sécurité à sacrifier sa liberté pour vivre dans l'insouciance et la simplicité de vie, ne se doute pas qu'il tue peu à peu la démocratie en plongeant sa liberté et qu'il tue peu à peu la démocratie en remettant ses problèmes dans les mains de l'État. Ce peuple veut ressembler au chien plutôt qu'au loup de la fable de La Fontaine, le loup et le chien. Dans cette fable, un loup vivant dans la misère rencontre un chien bien nourri. Ce dernier alors lui explique que pour vivre dans sa situation, il suffit de faire fuir les intrus et de plaire au maître. Le loup est tout d'abord intéressé, mais quelque chose l'intrigue. Je laisse la parole à La Fontaine. Chemin faisant, il vit le col du chien, pelé. Qu'est-ce cela? Lui dit-il. Rien. Quoi, rien? Peu de choses, mais encore. Le collier auquel je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit, et quoi encore?
Que pensez-vous de cette citation de Barack Obama? La lecture est importante. Si vous savez lire, alors le monde entier s'ouvre à vous. Eh bien, je pense que cette citation est juste. Car s'ouvrir au monde, c'est avant tout pouvoir lui communiquer. Communiquer plus que la parole, c'est savoir lire. On peut découvrir les autres en allant leur rendre visite dans leur pays, mais si on peut les découvrir depuis chez nous en lisant sur eux, en apprenant d'autres cultures dans les livres et dans les guides touristiques et toutes sortes d'écrits. Donc oui, la lecture est importante et oui, c'est une ouverture au monde. Et la lecture, bien qu'elle puisse paraître parfois ennuyante et laborieuse, est une forme de vérité, est une ouverture plus subjective au monde parfois. Et donc Barack Obama a raison en disant ça, car le monde entier s'ouvre à nous grâce à la lecture. Et le monde entier s'ouvre à nous avec la lecture, car en lisant sur eux, c'est nous qui nous ouvrons à nous et l'effet inverse fonctionne.